Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine, j'ai sous les yeux un livre, très, très bien illustré d'ailleurs, la couverture est très jolie, il y a beaucoup de jeunes et jolies femmes. Et ce livre s'intitule « Femmes d'autrefois en Nouvelle-Aquitaine » et c'est édité par La Geste, les éditions La Geste, en 2019. Et puis ce livre, bien sûr, est de Serge Pacaud. Alors, Serge Pacaud, c'est un chercheur, historien et romancier. Il a publié divers ouvrages traitant de l'histoire de l'Aquitaine médiévale. Nous sommes tous des Aquitains, hein, et des personnages réels ou supposés qui l'ont traversé. Dans ce nouveau livre, fort bien documenté, on redécouvre de nombreuses princesses oubliées, les aélas de leurs existences, en joie leur peine, leur destin extraordinaire d'être femmes. Ce n'est pas toujours très facile, voilà. Alors donc, Femmes d'autrefois Nouvelle-Aquitaine, en quatrième de couverture, ben voilà ce que l'on peut lire. Hormis le prince noir, Gaston Phébus et Étienne de Vignolles, dit Laïr, peu de personnages illustres émaillent de leurs souvenirs l'histoire médiévale de l'Aquitaine. Si l'on connaît quelques célébrités masculines dont les existences furent rapportées par les chroniques et des récits, à l'exception notable de la célèbre duchesse Aliénor d'Aquitaine, dont on a déjà parlé à ce micro, la majorité des lecteurs sont bien capables de citer d'autres femmes d'influence qui connurent la gloire d'une biographie. Alors, cette injustice patente envers le corpus féminin mérite d'être réparée par la publication du présent ouvrage et par l'évocation d'une quarantaine de princesses dont les destins singuliers appellent à ce qu'on s'y attarde. Sans les épousailles d'un homme et d'une femme, sans la rencontre d'un amant avec sa maîtresse, point de viabilité patrimoniale et successorale, pour comprendre leur destinée, il apparaît nécessaire de se remémorer ces gestes, ces gentes dames, pardon, et demoiselles au travers de leurs relations amoureuses, dans une sorte de catalogue des histoires d'amour, de l'histoire médiévale d'Aquitaine. Loin de l'image éthérée que l'on a parfois, on s'aperçoit que l'existence des princesses ne fut pas souvent un long chemin tranquille. Alors, pour en revenir à Serge Pacaud, alors je préciserai, j'avais oublié de le faire, qu'il est né à Bordeaux en 1950, il est d'origine landaise, et après une carrière dans la fonction publique, il est l'auteur de nombreux livres sur l'Aquitaine. Il a écrit entre autres des livres concernant Biarritz, Bayonne, Bordeaux, Le Béarn, Nélan, Saint-Jean-de-Luz, et bien d'autres choses. Et bien sûr, Femmes d'autrefois, dont on va parler, et donc publié, comme je l'avais dit, en 2019 par les éditions La Geste. Voilà. Alors, donc on va prendre un peu celui-là. Il y a un préambule. Il y a un préambule à ce livre qui nous dit ceci. L'Aquitaine médiévale est pauvre, très pauvre en biographie circonstanciée, minutieuse, hormis les souverains anglais lors de leur suzeraineté, le prince noir, Gaston Phébus et le fameux Étienne de Vignolles, donc on l'a déjà dit Laïr, peu de personnages de cette époque, qui dura tout de même un millier d'années, eurent les grâces des chroniqueurs institutionnels ou patentés. À peine si l'on connaît les bribes d'informations sur l'existence des rois Visigoths, comme Euric ou Alaric II, qui dominèrent la province pendant presque 100 ans, à l'exception de Guillaume IX, grand-père d'Aliénor, du Captal de Buc, alors il y a le sénéchal, bien sûr, Bertrand VII d'Armagnac, et duc des comtes de Baron, et les seigneurs locaux qui n'ont que peu retenu l'attention jusqu'au point de leur consacrer un ouvrage entier. Alors, par manque d'engouement de la part des mémorialistes médiévaux, de passion de la part des auteurs de l'histoire provinciale, d'intérêt de la part des historiens nationaux ou régionaux, mais également par l'absence d'archives suffisamment détaillées et approfondies, l'immense majorité des personnages influents de la grande région s'est dissipé dans les couloirs du temps où stagnent les terres de l'oubli. Alors, on va passer un peu la lecture de ce préambule, et qui nous dit par la suite, c'est une affaire entendue que leur état servile, aucune fille du peuple ne pourra véritablement s'insérer dans les annales pour devenir des héroïdes. Cependant, s'il valait mieux naître princesse que ribote, c'est incontestable et incontesté. Les modalités des usages que les filles de la noblesse subissaient laissent perplexes quant à la réalité de leur bonheur intime. En effet, en finalité, ne représentait-elle pas un ventre pour assurer des lignées ou des matrices à échanger, à céder, à vendre dans des accords vassaliques proches de la traite des femmes que l'on connut bien plus tard dès leur naissance. Parfois, avant que l'on espérait des filles pour pratiquer un tel commerce, des gamines faisaient l'objet de transactions entre les familles nobles, suivant leur lignée et leur rang dans la fratrie. Elles pouvaient espérer contracter un mariage plus ou moins gratifiant, sans préjuger des qualités ou des défauts de leur futur seigneur et époux. Leurs fillettes des maisons prestigieuses étaient fiancées dès l'âge de 7 ans, un pré-gage que l'on pouvait rompre suivant les aléas de la politique et des intérêts contradictoires des parents. Souvent toutefois, elles rejoignaient leur future belle famille accompagnée d'une seule nourrice, séparant brutalement de leur père, de leur mère, de leurs frères et de leurs sœurs, pour aller vivre désormais dans un environnement étranger aux pratiques inconnues qui tantôt employaient un dialecte différent. Alors, bien sûr, il y a une suite dans tout cela, les nuits de noces ainsi que, on va sauter un peu, les nuits de noces ainsi que les suivantes se révélaient évidemment catastrophiques, confrontées le plus fréquemment à un rude gaillard, le traumatisme des drôlesses à peine sorties de l'enfance demeure inimaginable. Se réfugier dans la prière et les saintes adorations n'étaient pas que des pis-allers, des impératifs sociétaux ou des dérivatifs de circonstances. La religion leur permettait de garder aussi leur équilibre psychique. Durant des années, ces jeunes femmes subissaient ce pouvoir, ce pourquoi elles étaient confrontées, c'est-à-dire devenir mères le plus souvent possible, telles des pouliches ou des génisses dont on attend le retour d'un surinvestissement. Le nombre de nourrissons morts-nés ou décédés en bas âge multipliait les grossesses. Il n'était pas rare que les parturientes meurent en couche ou d'épuisement. Seuls les plus robustes parvenaient à un âge avancé, mais ces dernières dispositions médicales concernaient bien évidemment l'ensemble des femmes et de la population entière. Alors on va aller un peu plus loin dans ce chapitre. Il y eut bien quelques-unes de ces gentes dames qui durent rencontrer l'amour lors de leur union imposée. On ne peut jurer de rien. Durant tous ces siècles, d'heureux hasards intervinrent sûrement pour parvenir à satisfaire des desseins de la politique et des coïncidences des sentiments. Mais ces raretés ne firent l'objet que de peu de chroniques. On estimait majoritairement que la femme devait aimer de toute force le mari choisi par d'autres, qu'importe sa conformité, son comportement, son entre-genre ou sa débilité. La règle était rigoureuse et ne souffrait qu'aucune contestation. Devant l'inflexibilité de la tradition, on eut l'idée d'inventer ce qu'on appela l'amour courtois ou le fin amour. Ceci pour apporter aux princesses désespérées quelques réconforts moraux et affectifs. Désormais, ces pratiques délicates les aidèrent à supporter des conditions sentimental, bafoué. On va poursuivre un peu plus loin. Alors, malgré leur rareté, les annales et des mémoires ont retenu néanmoins la vie et l'œuvre de certaines princesses d'exception qui connurent des existences extraordinaires, des fortunes surprenantes aux rues au-dessus du monde, au contraire du reste de leurs congénères, avant que des millénaires n'achèvent le délitement de leurs souvenirs. Plaise aux lecteurs de ce présent ouvrage de redécouvrir avec bonheur la destinée remarquable de filles et de femmes qui rencontrèrent une certaine forme de célébrité, gloire leur en soit louée. Alors, on notera qu'une partie des princesses dont il est question dans ses biographies amoureuses ne sont pas issues directement de l'Aquitaine, mais en ont épousé la cause par leur union avec un seigneur autochtone. Cela n'importe guère dans le fond, ainsi que nous n'en ferons pas la différence avec celles frappées du sceau de l'origine régionale, car l'on sait combien les filles se conformaient aux usages des familles dans lesquelles elles entraient par mariage, jusqu'à prendre des traditions, l'idiome, l'accent, comme elles-mêmes naquirent sur le territoire de leur province épousée. Alors, on va prendre la suite. Alors, il y a les saintes en Aquitaine, il y a Estelle, Faust, Foy, Alberte, Dom, Librade, Bazeille, Martienne, Équiterie, et bien sûr les martyrologues sacrés des vierges sacrifiées. Alors, et puis on va prendre la première de ces dames, qui est Placide d'Aquitaine. Alors Placide d'Aquitaine, elle vécut entre 388 et 540, et pratiquement, vivant pratiquement à la fin de l'Empire romain. Alors, il est dit de la couche rude d'un époux rustre au lit douillet de Marie empereur. Alors, pour amorcer l'évocation, comme je disais, l'évocation des filles de la noblesse qui s'intègrent de facto dans l'histoire de l'Aquitaine, nous allons débuter par une princesse qui fut une éphémère mais efficiente reine de ses contrées, puis devint à cause d'un extraordinaire coup de pouce du hasard la dernière impératrice régnante d'Occident. Un destin hors norme dont la province peut s'enorgueillir, car ce n'est que lorsque l'époque s'achève que l'on en comprend le sens. Alors donc, c'est cette jeune fille nommée par les chroniqueurs latins Galla Placidia, naquit en Thessalonique peu de décennies avant que le pape de Rome ne reprenne les palais et les titres des anciens empereurs d'Occident. En ce temps, voilà belle lurette que les invasions barbares avaient mis fin à la Pax Romana, aidée par la corruption des élites gallo-romaines, perverties par l'argent et grisées par leur pseudo-puissance qui allèrent jusqu'à leur faire perdre le sens du patriotisme et de la défense de leurs intérêts. L'Empire romain n'avait plus que quelques années à vivre. Les élites dansaient sur les décombres sans souci des lendemains. Alors, fille de l'empereur Théodose Ier et sœur du faible Honorius, qui deviendra à son heure le monarque suprême, la princesse impériale vivait une existence constituée de fêtes et de plaisirs, afin de passer des heures en attendant un mariage nécessaire au gré des intérêts de l'Empire, elle-même réputée pour sa grande beauté, tant qu'à faire, Placidie devint la maîtresse du préfet du palais, Eriachus, une sorte d'initiation amoureuse qui rapprocha les jeunes gens. Alors, bien sûr, les événements s'accélèrent lorsque le roi Wisigoth, Alaric Ier, s'en prit aux aigles de Rome et réussit à battre les légions, puis entreprit le sac de la ville éternelle durant 3 jours et 3 nuits. Nous étions en 410, on fit un tel massacre que le nom du peuple germain fut synonyme d'effroi. On pilla, on incendia, on ruina chaque demeure, on tua, on violenta, on massacra les femmes, les enfants, les hommes, et on ne respecta rien à l'exception notable des lieux de culte chrétien ainsi que la population qui s'y était réfugiée. Car le souverain Wisigoth, abbé de la religion, reprenant l'errance du peuple barbare, Alaric emportait dans ses bagages un formidable bulletin et avec comme otage la princesse Placidie et quelques gens à sa suite. Il comptait en faire bon usage, et puis la jeune fille lui plaisait malgré la jalousie apparente de ses épouses. Sa victoire lui fut fatale après avoir pillé l'Italie du Sud et réuni une armada afin d'envahir l'Afrique du Nord, détenue par les Vandales. Hélas, une tempête détruisit ses navires, lui-même abattu par des fièvres malignes, en l'inhuma sous le lit d'une rivière après avoir détourné le cours pour le protéger des profanations. On accompagna le corps de la moitié des trésors volés à Rome, puis on remit tout en place, tout à sa place. Les esclaves lui avaient creusé la tombe, furent tous égorgés, immolés, afin de garder le secret. Son beau-frère, fier Arnulf, prenait la tête des Wisigoths, élus par le peuple, ainsi que le voulait la coutume. Voilà, c'était des drôles de coutumes quand même à l'époque. Alors, le nouveau roi s'accapare de nombreux territoires, Narbonne, puis Toulouse, puis Bordeaux, qui lui ouvre volontairement ses portes. Puis la nouvelle populanie entière qui se soumet aussitôt et le départ en panique des Vandales. Alors, le sud de l'Aquitaine passe sous le giron des nouveaux venus. La jeune fille traitée avec des égards dus à son rang restait prisonnière de ses geôliers. Le roi lui faisait une cour pressante pour l'épouser. Voilà. Alors, on va quitter là la Placidie et on reprendra son histoire la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un soleil printanier et donc à très bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.